petits locaux qui font du concret auprès de la population. Je crois qu'on est en grand manque d'informations objectives. Malheureusement, les médias font de l'émotion, recherchent à vendre du papier, à faire de l'audimat, et jouent plus sur l'émotion que sur l'information. Et je crois que les gens s'abstiennent parce que la politique, c'est aussi et beaucoup économique. Et quand il n'y a pas d'emploi, alors qu'il y a de la misère, les gens sont écœurés et n'iront pas voter. Et ils iront voter si, justement, les politiques arrêtaient de dire des mensonges. Quand ils disent que ça ira beaucoup mieux, on va inverser la courbe du chômage, on dit ça tous les ans et ça n'a jamais lieu. Il faut interpeller aussi sans cesse nos politiques locaux. On a les députés à portée de main. Il faut absolument aller les voir et exiger qu'ils réunissent des gens autour d'eux pour communiquer. Il faut aller sonner à leur porte. Et je crois que pour les chrétiens, entre autres choses, il y a des documents extraordinaires. C'est le compendium de la pensée sociale de l'Église. C'est une mine. Voilà. Rapidement.
D'autres questions? Il y en a beaucoup. Dans les films, il s'affirme.
Bonjour, mon professeur, qui l'a cité tout à l'heure. Surtout le prix qui transcourt avec la mondialisation. Et enfin, comme il disait, c'est pas faire. On n'est pas capable de pouvoir tenir un levier qui bouge.
Est-ce que tu as une question, Maxime?
C'est celle-là. Et là, mais on fait le boulot,
on parle
de
ce
boulot
qu'on peut faire, le
prix et
l'échelle
mondiale.
On s'en fait quatre.
Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a dit que les critiques libérales de la presse, parce que les médias, parce qu'effectivement, on prend les petites coups de leur miette, bon, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu de la provoque, mais informez-vous correctement. Et je ne pense pas, je dis à ma propre mère, qu'en regardant le journal de 20h, on soit correctement informé. Voilà, 24-25 sujets en une demi-heure, etc., une minute par sujet. Donc, on voit qu'on est dans une autre chose. Et puis, on va faire les mains entre temps, et puis, on se fait finir en même temps. Bon, on n'a pas le temps de regarder effectivement ce qui se passe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de voir quel niveau d'information, nous est nécessaire et comment. On commence à le constituer, donc on n'est pas tous en possibilité de pouvoir lire les 5 ou 3 journaux pour faire la comparaison. Hein. Je pense qu'on a à s'informer mutuellement et à prendre des moyens simples. Les moyens simples, c'est comparer les choses. C'est se donner des tuyaux. C'est de travailler ensemble sur les questions qui nous importent. Exemple. Si les questions de solidarité internationale sont facilement remportées, c'est parce que on a perdu en capacité et en qualité de nous sensibiliser mutuellement les uns les autres. Quand je vois de jeunes filles, bon, moi qui habite en banlieue, même avec des journaux un peu, bon, type, voilà, Métro, News, tout ce qu'on veut, les deux filles regardent le même truc en disant, ça c'est vraiment dégueulasse. Et la fille dit à l'autre, ouais, ça, c'est vraiment dégueulasse. Là, je dis, c'est gagné. C'est gagné parce qu'elle commence à comparer et à parler ensemble. Alors, évidemment, il faudra que ça soit relayé, qu'après d'autres leur donnent des éléments. Mais si déjà commence à discuter entre elles de ce qu'elles trouvent dégueulasse dans le monde, eh bien, elles sont en chemin. Alors, qui les accompagnera effectivement dans ce chemin? C'est un peu ma grosse question. Donc effectivement, ben, les politiques de haut vol, bon, je ne veux pas les défendre, hein, elles donnent un petit spectacle. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé aussi bas? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé aussi bas? Ben, parce qu'on est dans des machines qui éliminent, dans certains cas, les bons. Ceux qui ont des convictions, qui sont capables de positions nuancées. Et j'ai envie de dire, dans certains cas, malheureusement, la logique des partis, puisqu'on est encore très adossé sur la logique des partis, c'est des logiques de rouleaux compresseurs et de tueurs. Donc c'est ça qu'il y a vraiment à reprendre un peu conséquemment. Donc moi je trouve que vous avez tout à fait raison d'interpeller sur le rôle des politiques à un niveau local. On sait que le tableau était contrasté et que bon, évidemment ce n'était pas à jeter l'eau, le bébé, le bain en même temps, mais que nous avons une responsabilité. Qui de nous va voir son député 2 fois, 3 fois par an? Pas simplement pour dire ça va ou ça va pas, mais juste, il faut se solliciter quand même dans certains cas, nos responsables pour qu'ils puissent au moins, on ne s'en pas s'informer. Voilà, voilà, on va dire ça. Mais quand même, ceux qui ont joué hein, le jeu de la politique participative par les conseils de quartier, etc., sont quand même mieux informés hein, que ceux qui sont dans la pure représentation. Donc de quoi est-ce qu'on a besoin hein, de montrer que la politique c'est une success story et qu'on peut s'enrichir et rouler avec bon, l'espèce de la République avec chauffeur, ou de voir vraiment des élus qui continuent à vouloir être des élus de proximité. Hein. Bon, il y a vraiment un travail à faire, et je comprends aussi le désarroi hein, d'un certain nombre d'élus qui sont transformés en godillots, hein, c'est plus que pas simplement le général de Gaulle, mais bon, leurs marges de manœuvre sont pas si fortes que ça, donc c'est le travail ici en commission parlementaire, c'est le travail un peu à long terme sur des dossiers, mais qui les dirige pour ça? Qui travaille avec eux pour ça? C'est pas avec un ou deux assistants parlementaires que le club est fait. C'est aussi dans des interactions concrètes, constantes, avec ceux que l'on est censé aussi représenter. Bon, donc vous me renvoyez au compendium, merci. C'est super le compendium. Mais attention à la politique déductive. J'ai dit tout à l'heure. Bon, d'accord, dans différentes traditions religieuses, on a des grands principes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on les met en œuvre, de façon participative. Donc, ce à quoi je crois, hein, c'est, pour ce qui concerne en tout cas les gâteaux, c'est à des formes de participation. Donc, la doctrine sociale de l'Église comme idéologie, il y a bien longtemps hein, que les concards, chevilles et autres ont encore beaucoup. Il y a bien longtemps, la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui, pour ce qui concerne les gâteaux, si elle veut se réformer, c'est par le bas. C'est par le bas, c'est-à-dire en montrant ce qui marche, ce qu'on est capable de faire ensemble, ce qui a vraiment du poids. Bon, ben où est-ce qu'on trouve hein, les chrétiens et les autres? C'est dans les entreprises intermédiaires, c'est dans l'économie sociale et solidaire. On a vite fait le tour là où ils sont. C'est là aussi qu'il faut faire peser les choses. C'est dans la défense, par exemple, du droit du travail. Hein, voilà. C'est aussi, hein, heureusement qu'ils sont encore là, hein, dans les conseils municipaux ruraux. Si vous ôtez tous les chrétiens qui sont avec un mandat politique hein, dans les zones rurales en France, le système s'effondre. C'est très clair. Donc moi je pense qu'il y a à montrer aussi un visage, je vous l'ai dit tout à l'heure, noble hein, de la politique. Donc pas comme une affaire d'accaparement des entreprises de nappe hein, ou des bonnes familles, mais capable aussi de progresser. Donc, effectivement, on atteint le summum hein, de la non-représentativité. Alors, vous allez bien vouloir pousser la parité. Combien est-ce qu'il y a d'ouvriers qui sont députés aujourd'hui? Combien est-ce qu'il y a d'ouvriers? Bon, voilà. Donc, c'est ça aussi qui est vraiment en cause. Et effectivement, ce qui manque, hein, c'est un véritable pluralisme. Nous avons besoin de retrouver un pluralisme beaucoup plus fort. Et malheureusement, je regrette de dire, les seuls qui actuellement apportent un peu de nouveauté, c'est bien grave, c'est du côté du Front National. Parce qu'ils sont en train d'engager des gens jeunes et durablement. Alors, leur idéologie sur le fond n'a pas vraiment changé, mais malheureusement, ils sont en train de mettre dans la course un renouvellement très conséquent que les barons des grands partis n'ont pas voulu, n'ont pas su. Il faudrait que je m'arrête longtemps hein, sur chacun de ces termes. Et donc, où est-ce que les jeunes s'engagent? Eh bien, aujourd'hui, vous les retrouvez, dans certains cas, dans une autre vision de la mondialisation. Désolé, hein, ils sont dans les forums sociaux mondiaux. Ils étaient à Tunis, là. Hein. Bon, voilà. Simplement, il faut aller les chercher, parfois beaucoup plus loin, hein, sur d'autres modalités de mobilisation. Il ne faut pas non plus les prendre pour des tons. Hein, hein, par exemple, pour des abrutis, à les respecter comme ils sont, à trouver une modalité non sacrificielle, en fait, ça devrait résonner sur nous qui sommes croyants, non sacrificielle de l'engagement. Si vous voulez vivre l'engagement comme papa, maman, il passe tous les soirs et il n'y a plus aucun week-end, ça, terminé, hein. Pas question. Bon, et c'est la même éthique à la limite au niveau professionnel. Je rencontre dans l'enseignement des jeunes qui sont des très bons professionnels. Certains ils n'ont pas été si mal formés que ça, mais 17h, c'est pas 17h05. Hein, et vous ne leur demanderez pas d'être là à 17h10. Bon, ben, la question, c'est comment est-ce que jusqu'à 17h, on les fait bosser correctement. Donc, ça résout pas tous les problèmes, mais je vous donne quand même l'outil. Notre responsabilité, c'est d'être vigilant et d'être citoyen. De continuer à vouloir être citoyen. Et la citoyenneté, je pense qu'il faut en avoir une conception large. Pas de dédier la citoyenneté uniquement politique. Et même sur la citoyenneté politique, on en parlait tous les deux tout à l'heure. Ouais, quand même grave, hein, que depuis 20 ans, 30 ans, et qu'on ne soit pas capable de faire évoluer le statut des immigrés qui payent leurs impôts, qui payent les cotisations sociales et qui ne peuvent pas participer au moins un peu aux élections locales en ce qui les concerne. Comment voulez-vous qu'on ne génère pas des frustrations, du ressentiment, de la relégation, de l'exclusion, parce que la politique devrait être le lieu de la participation. Donc en fait, nous créons nous-mêmes, et ça c'était très bien étudié par, il y a longtemps, par des spécialistes de sciences politiques comme Daniel Gaxi, des formes de sens. C-E-S-S. Nous sommes une forme d'ancien régime, avec une forme d'aristocratie. Certains maîtrisent très bien le jeu politique, et se débrouille très bien avec, et puis les autres, et bien ils prendront tout ça, et puis ceux qui sont en périphérie complète, ben là, personne ne les représentera. Voilà, donc la situation est une situation, à mon avis, qui mérite une attention un peu plus grande, pas dire plus. Il y a trois
questions. Moi, c'est pas une question de sentiment. J'ai pu voir à Montbéliard, c'était dans le cadre art et essai, un film sur les paradis fiscaux. Et après, il y a eu un débat. Donc, le film, c'est une Canadienne qui avait lancé le projet du film et qui montrait, bon, ce que tout le monde connaît. Et ce qui était intéressant après, c'était le après. Parce que on a parlé de paradis fiscaux, et à un moment quelqu'un a abordé le problème de l'Europe et le problème de la Grèce. Je me suis dit, tiens, ben ça va chauffer, parce que on va sûrement dire bon, on va les laisser tomber. Eh ben non. Je ne connaissais pas les personnes qui étaient dans la salle, j'avais des jeunes aussi. Eh bien, je peux dire que la plupart étaient d'avis qu'il ne fallait pas laisser tomber la Grèce. J'étais étonné. Voilà. Donc, c'est une valeur profonde que j'ai retenue cette soirée.
Une autre question ?
Juste par rapport au mécanisme qui permet l'émergence justement de cette
soirée.
Oui, voilà, je vais essayer. Donc, ma question, c'est par rapport au mécanisme qui permet l'émergence de cette nouvelle classe politique, qu'on appelle de tous nos voeux. Parce que, actuellement, ça me paraît très, très difficile, parce que j'ai pas l'impression qu'on est dans un jeu démocratique classique, même en étant, j'apprécie ici la démocratie en France comparée à d'autres pays, mais actuellement, j'ai l'impression qu'on est dans une oligarchie, je sais pas comment la qualifier, l'exemple que vous avez donné sur le Front National, parce que justement il y a des places à prendre, c'est pour cela que les jeunes aussi il faut y aller. Les autres partis, on est dans des partis, plus ou moins, parce que le centre plus ou moins a été absorbé. c'est très très difficile de d'aller dans ces parties-là et de se faire une place. L'autre jour, je regardais une vidéo sur YouTube parce que j'ai fait l'effort aussi de chercher l'information ailleurs. Il y avait une jeune fille d'origine maghrébine qui avait tous les critères, je dirais tous les critères verts pour qu'elle soit représentée dans les élections départementales, il semblait, mais on lui a opposé le fait que, bon, à l'origine maghrébine, etc., on a préféré une mamie de 70 ans. Rien contre les mamies, mais voilà. Donc, c'est très, très difficile. Et un autre point aussi, c'est le poids des médias. Parce qu'effectivement, depuis quelques années, on est dans les médias continus. Donc, il faut alimenter ces médias. Donc, vous avez donné tout à l'heure les politiques qui jouent avec. On a l'impression que, voilà, la politique, elle devient une politique spectacle. On a perdu de vue cette politique par principe. Et j'ai l'impression qu'il y a un travail énorme à faire, mais la majorité, je pense, ici, se pose la question, mais comment faire? Vous avez des recettes? Comment faire?
C'est un petit catalogue, mais comment faire?
Voilà.
C'est un catalogue. Vous avez deux questions?
De progrès social ou un facteur de régression.
Est-ce que la religion est un facteur de progrès social ou de régression sociale? C'est des gens derrière, ça pourra vous laisser le temps, c'est parfaitement. Voilà trois questions.
Oui, bon, alors, la première partie de votre intervention, je la trouve tout à fait signifiante. Ce que vous avez dit sur les paradis fiscaux, c'est que cette question a été portée dans l'ombre par des mouvements, des services, notamment CCFD et d'autres, pendant des années et des années, des mouvements alternatifs, pendant des années et des années. C'est quand même assez grande nouveauté qu'on mette en place progressivement des formes de coopération internationale, de lutte contre les paradis fiscaux, donc le travail de conviction de mise en forme d'argumentaire a été long, mais aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Bon, alors d'accord, c'est pas parfait, etc. Bon, y compris les entreprises publiques s'arrangent pour avoir des succursales dans des pays où on fait taxer, y compris les entreprises publiques, on a découvert ça quand même il n'y a pas très longtemps, la Cour des comptes n'était pas contente du tout. Donc ce que je veux dire par là, on aurait pu donner d'autres exemples, qui était de l'ordre de l'utopie à un moment donné. Par exemple, la lutte contre l'impunité. Pour moi, qui suis assez proche de la CAF ou d'Amnesty International ou autre, on voit très bien que la lutte contre l'impunité est un combat de très longue haleine, qu'il faut continuer à être présent sur ce terrain et qu'il commence à porter des fruits. Vous me direz, bah oui, d'accord, les États-Unis n'ont pas encore ratifié le protocole pour une Cour pénale internationale, on y arrivera. Et aujourd'hui, la donne a changé, désolé, tous les dictateurs africains et autres savent qu'ils risquent, une fois ayant perdu le pouvoir, d'être un jour devant un tribunal international. Il y en a déjà eu un pour le Rwanda, il y en a même pour le Cambodge. Une Cour pénale internationale mériterait. C'est mon petit idée aussi de l'ADN, bon, c'est pas une nouveauté absolue. Donc, voilà, je pense que d'une vision positive aussi, en fait, dans le décoratif tout le temps, positive, mérite d'avoir un célèbre de crédit. Ce qui fonctionne mal, c'est souvent l'association d'instances de représentation de la société civile. Beaucoup d'organismes internationaux ont maintenant des chambres consultatives où peuvent siéger les ONG, où peuvent siéger des représentants, etc. Il n'y a pas qu'à l'ONU, dans ces institutions africaines ou autres que je connais mieux, il n'y a pas que le Parlement européen avec lequel nous pouvons faire entendre une voix. Or, dans les processus délibératifs, c'est pas simplement de bon ton, c'est une obligation dans certains cas d'avoir associé la société civile pour faire court. Donc, non seulement c'est le rôle que l'on fait jouer à ces instances, comment est-ce qu'on les valorise, exemple, en France, on a une institution qui semble servir à peu près à rien, hein, c'est le Conseil économique, social et environnemental. C'est pourtant, il y a un sens, il faut un sens d'élaboration. Or, si vous voulez, ce qui est compliqué actuellement, c'est que toutes les instances un peu d'élaboration, capables, hein, aussi de projeter une vision, j'ai dit tout à l'heure une utopie, mais on pourrait dire aussi une vision, sont des instances faibles. Alors, qu'est-ce qu'a apporté un pays comme le nôtre après la Seconde Guerre mondiale? C'est non seulement d'avoir dépassé des clivages partisans pendant l'occupation, Conseil national de la résistance, hein, qui réunissait autant des bons chrétiens que des communistes et des vrais communistes, voilà, donc être capable de faire des choses ensemble, et ensuite être capable de trouver la traduction pour le faire. C'est grâce on oublie tous ces éléments-là, évidemment, je parle d'un temps que, bon, regardez que les jeunes n'ont pas connu, mais c'est grâce à ces formes renouvelées d'entente et de dépassement des usages que certains éléments de la 4e République, la sécurité sociale, le vote des femmes, enfin tout ça, ont pu se mettre en place. Donc on a aussi à faire droit à ces initiatives-là. Donc, effectivement, je crois, pour répondre à la deuxième question, que nous avons des phénomènes de captation de la politique aujourd'hui par les élites, c'est pas totalement nouveau, et que la classe politique effectivement est très oligarchique, mais la réforme, elle ne peut se faire que par plusieurs niveaux à la fois. C'est les modes de désignation, c'est les modes de participation, bon, ce que vous évoquez, c'est les modes de désignation des candidats. Alors, désolé, on a quand même progressé ces dernières années en essayant d'avoir des compétitions plus ouvertes, et ce qui s'est imposé, bah, c'est en gros une partie du système américain, c'est l'instauration de primaires. Bon, bah, les primaires, c'est mieux que les coups fourrés. Hein, c'est déjà ça. Donc après, arrive à hiérarchiser et à travailler aussi à des formes de transactions. Un peu l'éthique, c'est des formes de transactions entre différents acteurs. Hein, bah, c'est un combat, me semble-t-il, de longue haleine. Pour ne pas parler dans le vide, politique, c'est des jeux d'alliance. Donc comment est-ce que ces alliances sont faites sur une base équitable? C'est tout l'enjeu en philosophie, des fils de la discussion, d'ailleurs, masse ou autre. C'est aussi, dans certains cas, un niveau plus local, de faire en sorte que les différents représentants de différentes légitimités puissent se mettre autour d'une table. Exemple. On veut construire ici une centrale nucléaire. Vous allez avoir le représentant de l'État qui dit, moi je veux l'indépendance énergétique de mon pays. À 25 ans, 30 ans. Donc une centrale nucléaire de plus ne permet pas de vendre de l'électricité à pas cher à côté puisqu'ils n'en veulent plus. Bon. Vous avez les élus locaux qui vont dire, moi la légitimité que j'ai, bah, c'est mes électeurs qui m'ont élu. Ils m'ont élu pour que je crée des emplois. Le nucléaire crée des emplois. Donc, je suis favorable. Et puis, vous avez le représentant des pêcheurs à la ligne, des associations, qui vont dire, bah, attendez, vous allez nous voler vos choses, là, et nos petits poissons, mais on n'a pas trop aimé ça. Maintenant, on n'est pas d'accord. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la politique, c'est une territoriation d'intérêt. Le préfet, vous pouvez être aussi un pêcheur à la ligne et comprendre le point de vue des associations écologistes. Le préfet peut être aussi concerné par la question d'emploi. Et les députés peuvent aussi comprendre que finalement ce n'était pas un bon choix de vouloir une centrale nucléaire de plus, mais de préserver son environnement. C'est un choix plus d'avenir. Vous voyez donc, dans la capacité à la substitution des rôles et à la mise en situation à la place de l'autre, là, on arrive à déterminer mieux l'intérêt général. Alors, le problème dans un pays comme le nôtre, c'est que la détermination de l'intérêt général aujourd'hui est très grippée. Nous sommes dans des logiques corporatistes où chacun veut garder son bout de gras et voir étant ses avantages au maximum et au détriment des autres. Or, là, il y a tout un travail à faire pour dire que c'est plus possible. Et si les gens respectent correctement les choses, si on leur assure aussi que le respect d'un partage à peu près équitable, jamais agréable de voir sa retraite diminuer, va être fait correctement, qu'on va payer sans doute peut-être un peu plus d'impôts, mais qu'il sera réparti correctement, voilà. Là, on peut comprendre. Or, ce travail de mise en forme n'est pas fait, et les décisions qui seraient, dans certains cas, plus équitables, n'ont pas été prises. Toutes tendances font du droite comme gauche, les écarts sociaux se sont creusés en France ces 30 dernières années. Les inégalités sociales se sont aggravées. Donc il y a un problème général qu'on n'arrive pas à corriger. Donc ces questions-là, c'est des questions lourdes, dans lesquelles, je termine, les religions ont des choses à dire. Alors, je ne veux pas trancher trop vite, c'est une religion qui est un facteur de progrès social. Une religion peut être facteur de régression. Très clair, dans certains cas, elle ne favorise pas l'humanisation, mais elle favorise l'enfermement. Elle favorise la déshumanisation. Voilà. Il y a un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas partis combattre en Syrie. On pourrait avoir une vision encore un peu hérénique des religions. Donc nous devons travailler, toutes religions confondues, sur nos références, sur nos héritages, sur nos façons de faire, pour qu'elles soient réellement humanisantes. Et je ne prends pas les choses par le petit bout de la lorgnette, mais c'est pas en plume, disons le petit dénominateur commun. Ce n'est pas ça du tout. Moi, il me semble que chaque religion doit être dans son champ, dans sa responsabilité spécifique. Nous n'avons pas tous les mêmes références et nous ne sommes pas tous d'accord sur tout. Bon, là encore, je crois que ça a été aussi assez clair. Donc, que chacun balaye devant sa porte. Pour combattre les propres racines d'intolérance, de fanatisme, d'intégrisme. Et là, peut-être que les religions retrouveront auprès de nos concitoyens une certaine crédibilité. Faisons ce travail correctement. Alors, je ne suis pas sûr, y compris dans ma propre tradition catholique, que le travail soit bien fait. Ça m'interroge assez durement sur les processus de formation des chrétiens en général. Quand on corrèle la carte de l'électorat extrémiste et puis la carte du vote où on trouve que ce sont aussi dans certains cas des religions catholiques, ça fait mal. Donc on se dit, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qui fait que dans certaines régions où on n'a pas vu un seul immigré depuis des générations, on se met à être dans une position totalement fantasmatique, qui n'a rien à voir avec la réalité, n'est pas dans une situation d'invasion. L'immigration, même s'il y a des failles, c'est une immigration, tous les spécialistes vous le diront, qui est quand même très lourdement contrôlée. Ne racontez pas n'importe quoi. Donc, les gens, malheureusement, sont en train de mourir à Lampedusa et compagnie, vous le savez aussi bien que moi, au fin fond de la Méditerranée, et sans aucune possibilité, dans certains cas, d'accès. Donc, je pense que sans être totalement irréaliste, il faut aujourd'hui qu'on soit capable de prendre à bras le corps cette question de l'accueil des étrangers, des immigrés ou autres, de façon sereine. Or, ces dernières années, malheureusement, c'est devenu un élément de campagne, et les religions, dans le cas précis, ont des choses à dire. En tout cas, les religions chrétiennes, si elles sont cohérentes avec leur tradition, ça, la priorité de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré, du pauvre. Peut-être, pour elle, le visage même de Dieu. Peut-être pour elle, une façon de jouer l'hospitalité sacrée. Donc, ils se disent, même dans les traditions laïques, même si vous référez au lycée, que celui qui accueille n'est pas Dieu lui-même. Donc, vous prenez des philosophes comme Derrida, bon, pardon pour un peu de philosophie, mais enfin, c'est dans un quotidien. Jacques Derrida avait bien vu que nos sociétés sont très marquées par une tension entre une hospitalité conditionnelle, et toute société pour vivre a besoin de déterminer ses façons d'y entrer et d'y sortir, hospitalité conditionnelle, une condition pour être français. On ne peut pas, comme l'a dit un ancien premier ministre, accueillir toute famille d'origine. C'était très mal interprété, mais enfin, peu importe. Et si on prenait la situation dans son ensemble, ça c'est le travail des médias, pour pas réduire la complexité des phrases, on verrait que justement il faisait pour une petite immigration, très mauvais procès au cas, et ensuite, nos traditions spirituelles et religieuses défendent une hospitalité inconditionnelle. Donc l'aiguillon d'une hospitalité inconditionnelle, il n'y aura chez toi ni riche, ni pauvre, ni femme, ni homme, ni païen, ni homme, etc., etc. L'esclave doit continuer à irriguer, à interroger nos capacités réelles. Bon, désolé, dans une famille, quand on est dans une famille un peu nombreuse, vous savez bien, mettre une assiette de plus, c'est parce qu'il va nous coûter trop. Voilà, mettre une assiette de plus, même du bout de la table. Bon, et je pense que dans certains cas, on est totalement irresponsable. Parce qu'on sait très bien dans certains cas que ceux qui travaillent le plus dur, ceux à qui on a laissé les boulots les moins gratifiants, malheureusement, ce sont les immigrés. Or, des sociétés comme les nôtres, dans certains cas, ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir. Une réaction cynique, une réaction purement cynique, ça fournit la marge d'ajustement de bien nos entreprises, et pas que dans le BTP. Parce que si on n'avait pas un certain nombre de populations migrées pour travailler dans les BTP, on serait bien mal pour construire nos propres maisons. Vous voyez, donc c'est la question aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut? Et la détermination collective, on ne reprend pas l'exposé, sans bouc émissaire, sans le maniement des peurs. Parce que la politique, c'est aussi le maniement des peurs et de l'irrationnel. De l'irrationnel, c'est le travail, j'ai envie de dire, d'éclairage, de lucidité, de désentablement que doivent aussi promouvoir les responsables religieux. Donc je suis pour que les religieux interviennent dans le champ politique. Je l'ai dit l'autre jour à tous les prêtres du catholique du diocèse de Saint-Denis, l'honneur d'un certain nombre de prêtres, c'est d'avoir été dans l'illégalité. D'avoir été dans l'illégalité parce qu'un certain nombre de lois de la République ne respectent pas, ne respectent pas la dignité des personnes. Quand elles sont en situation d'internement administratif, il suffit de se balader autour d'un certain nombre d'aéroports pour voir ce que c'est comme zone de relégation. Quand elles sont dans l'incapacité de pouvoir travailler, puisqu'elles sont en attente de papier, comment voulez-vous qu'on ne génère pas du trafic et des situations malheureusement grises, voire même dans ce qu'on ne souhaiterait pas. Vous voyez bien. Donc, je pense que là, il y a des politiques qui doivent être concertées mieux, et que les gens sont capables de comprendre ça. Moi, je fais confiance aussi aux gens. Donc, on a à regagner, effectivement, les uns avec les autres, un espace où on peut, et chacun de nous a des possibilités, on peut regagner un espace où chacun de nous peut intervenir plus. Chacun de nous est en capacité d'être en lien au moins avec 5 personnes, quand on dit 5, c'est un minimum, 5 personnes, donc nous sommes aussi porteurs d'une influence, pour faire passer, ben, pour aussi défendre des idées qui en valent la peine. Or, la grosse question, hein, aujourd'hui, nos sociétés vont arrêter, hein, c'est aussi la question de la violence. La politique, c'est de la gestion de la violence. Or, si notre seule représentation, c'est le choc des civilisations, c'est l'incommunicabilité, quand même, et là, effectivement, les médias sont interrogés, qu'est-ce que nous montrons comme expérience positive de gratuité, de partage, de cohésion, de progrès, c'est ça. Donc, si nous sommes sans cesse immergés dans une société dépressive qui ne sait pas où elle va, etc., et avec une peur, une négativité, alors ça ne peut pas générer la confiance qui est nécessaire. Alors c'est le drame, hein, de nos sociétés qui sont sorties de la reconstruction d'après-guerre. La reconstruction d'après-guerre, les gens se sont serrés les coudes, hein. Ils ont fait passer l'intérêt collectif avant leur intérêt premier, et ils ont été capables, dans certains cas, peut-être de travailler plus, de travailler autrement, en tout cas, de trouver des modalités pour avancer collectivement. Or, aujourd'hui, c'est idéal, cette utopie, cette vision nous manque. Pour un certain nombre de jeunes étudiants, leur seul espace, je le conçois assez bien, c'est l'espace européen. Moi, dans ma propre congrégation, ma propre famille religieuse, un jeune qu'on accueille de l'Écosse, il va faire son lycée chez nous, il aurait pu le faire à Madrid, il aurait pu le faire à Londres. Donnons-leur la chance de construire cet espace qui sera le leur, et qui est déjà devenu en grande partie leur espace naturel. Donc voilà, la politique s'est pensée non pas à nous, mais à nos enfants, voire même nos petits-enfants, et ceux qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est Hans Jonas, le souci des générations futures. La politique, c'est vraiment essayer de penser un monde habitable pour ceux qui ne sont pas nés et qui pourraient un jour nous reprocher de ne pas avoir été en capacité et pas en volonté de faire les choix qui étaient nécessaires. Vous voyez, donc c'est une vision un peu plus conséquente de savoir si je vais être élu aux prochaines élections. Hein.
Dernière question, j'en passe. On a encore 5 minutes, il y en a.
J'aimerais savoir s'il y a encore des parlementaires qui sont en phase de l'interdit. Il y a quelques années, avec la CAQ, on pouvait interpeller un parlementaire qui était responsable d'un pays. Et maintenant, on ne nous donne plus ces informations. Oui, alors donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Est-ce qu'on peut encore connaître les pays dont les parlementaires peuvent nous mettre...
C'est le boulot des assistants parlementaires, et vous allez voir votre élu, si vous avez demandé, mais on travaille avec le même. Et voilà, et non, il faut travailler aux médiations, qu'on est peut faire. Donc, certains ont un boulot conséquent, d'autres, c'est simplement une fonction, honorifique ou autre. Non, puis la coopération décentralisée est aussi un intérêt, bon, il y a tous ces mécanismes-là qui semblent aujourd'hui à vitaliser. Bon, je l'ai dit, un peu aussi comme des sonnettes d'alarme, on est devant une réduction continue de l'aide publique au développement. Aujourd'hui, on comptabilise aussi des choses qui n'ont rien à voir avec l'aide publique au développement. Il faut être en capacité aussi avec la société civile d'organiser la coopération autrement, ou de défendre les droits de l'homme autrement. La CAP, pour vous citer la CAP, a des gros problèmes actuellement avec le Maroc, parce que, effectivement, la CAP, toute petite association quand même, d'accord, mais enfin, très gros problème d'avenir de la CAP, vous parlez très franchement, un très gros problème, c'est une sécularisation rampante, donc ce serait mieux avec le président, qui fait que l'avenir de la CAP n'est pas simple du tout, C'est pas simple du tout. Bon, alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on organise des prises de parole.
Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une association tout à fait intéressante, c'est pour un milieu orange. Hein.
Bah, disons qu'on a quand même des subventions européennes il y a 3 dernières années, alors donc je pense qu'on est totalement déclin.
Et vous êtes en très grand déclin parce que les jeunes publics ne vous rejoignent pas correctement, pas surtout. Il faut trouver des modalités nouvelles d'association. C'est le même problème à l'ici, c'est pas simplement à la carte. Voilà, c'est le problème de toutes les associations. Mais, vous alertez sur la sécularisation rampante. Hein. C'est-à-dire le rôle de vigilance au sein de nos propres églises. Hein. Comment l'assurer correctement aujourd'hui? Comment faire en sorte que les professionnels, même problème au CCSD d'ailleurs, ne prennent pas le pouvoir et le transforment d'ici 20 ans en association purement laïque?
Le CCSD, c'est la crainte.
La 4 aussi.
Comment peut-on avoir laïque des parlementaires?
Allez voir votre parlementaire, demandez-lui la liste. Faites travailler les assistants.
Là, monsieur Antoun, alors c'était pour Athénée Chemin la dernière conférence du site, donc Religion, France, Engagement. On est en train de construire le prochain programme qui sera Liberté d'expression et religion. Donc on a déjà trois personnes qui viendront. On peut déjà vous donner en avant-première, Marie-Christine. C'est important parce qu'on travaille.
On a vu la venue de. Et on a rendu la venue de Jamil Ekoudi, le mari strasbourgeois qui était déjà venu sur d'autres sujets. D'un musulman, Mohamed, parce que je me rappelle le nom. Je me rappelle le prénom à Ouel. C'est le nom Non, c'est pas ça.
Bon, ouais.
Ça sera un revoir sur notre site, inquiétamment, je peux. Et puis, la venue de Stéphane Lalineur, qui est déjà venu aussi, lui, qui est un pasteur protestant.
Très engagé.
Très engagé, oui. Sur toutes sortes de sujets, sur le mariage homosexuel, voilà. Sur la politique. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle Les religieux sont faits pour cette espèce. Et puis, il y a grand aussi donc, sur ce thème de la liberté d'expression, si j'ai bien compris, en lien avec la tolérance. Voilà, l'état actuel, c'est le contact.
Je vous remercie beaucoup, Jean-François, pour vous dire si c'est parti pour une journée.
Même pas si vous n'êtes pas trop froid aujourd'hui.
Voilà, donc on a, ça lui a permis de découvrir aussi, on a fait un petit peu un peu le tour de l'effort, parce qu'on s'aperçoit ce qu'il le dit, et j'ai apprécié que les meilleurs, parce que c'est vrai que c'est historiquement assez particulier. Hein. Les gens qui faisaient ça, ils venaient même de thèse, mais avec des histoires un peu différentes. Bon, la frontière n'est pas marquée, il n'y a pas de plan, mais c'est vrai que les gens ont fait du mal. Donc merci à tous les gens meilleurs.
C'est là, non, c'est ça, c'est de.
Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Sur le site de Martin Chemin que vous avez vu, vous pouvez retrouver donc, la conférence. Elle ne sera pas écrite, elle sera de manière audio. Et puis la prochaine conférence, elle sera la prochaine, donc à la mi-octobre. En tout cas, merci à vous tous. Je vous rappelle que cette conférence est aussi intéressante que celle-là. Merci à vous.